Il est 7h.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, et c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du cœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps.
2 ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la reconstruction en perspective. Désormais, les risques d'effondrement sont écartés. Ce chantier de la cathédrale qu'Emmanuel Macron visitera ce matin comme une illustration de la résilience du peuple français, chahuté aussi par la crise sanitaire, l'épidémie et ses 100 000 victimes. Le seuil sera bientôt officiellement dépassé. Dans ce journal aussi, on les appelle les No Kids et on va les entendre ce matin. Ces femmes qui ont choisi de ne pas faire d'enfants et qui sont de plus en plus nombreuses.
C'est un choix comme un autre. Il y a autant de manières de s'accomplir en fait que d'être femme. Et pour certaines femmes, cet accomplissement ne passe pas par la maternité.
Témoignages et explications à suivre. Et puis Manchester City contre le Paris Saint-Germain affiche des demi-finales de Ligue des Champions. 7h01, juste après ce journal, l'éclairage éco Nicolas Barré.
Et l'État qui envisage d'étaler, voire de supprimer la dette de certaines entreprises au cas par cas. Il faut éviter que la sortie de crise ne s'accompagne d'une vague de faillite.
Suivi du regard international, Jean-Sébastien Soldaini, de l'édito sport de Virginie Fulpin.
Dans moins de 100 jours, les JO, dans moins de 2 mois, l'Euro de football et deux façons opposées de préparer ces événements en temps de pandémie.
Et puis notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est le journal de Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Du brasier au chantier, le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'embrasait, laissant la bâtisse vieille de 850 ans ouverte aux intempéries. Plus de flèches, plus de toitures et tout un édifice fragilisé.
Alors 2 ans après, jour pour jour, où en sont les travaux ? Réponse avec Pierre Herbulot qui s'est rendu sur place pour Europe 1.
Des bâches qui pansent les parois, des filets qui enlacent les tours et des échafaudages qui s'infiltrent dans la nef. Notre-Dame de Paris martyrisée, mais Notre-Dame de Paris libérée de son risque d'effondrement.
Ça avance très bien.
Michel Picot, président de l'association Friends of Notre-Dame, assiste régulièrement à ces travaux de sécurisation débutés au lendemain de l'incendie.
Des opérations de soutènement des grands arcs-boutants de la nef de la cathédrale, d'enlèvement de statues qui menaçaient de tomber et qui devaient donc être protégées. L'enlèvement en fait de l'échafaudage calciné de la flèche de la cathédrale.
Après la consolidation de la voûte cet été, la phase de reconstruction va enfin pouvoir commencer. Christophe Rousselot de la Fondation Notre-Dame.
La cathédrale est prête à restaurer la flèche, et c'est-à-dire que l'échafaudage va être monté en partant du cœur, en partant du sol, comme Viollet-le-Duc l'avait fait en son temps. Et cet échafaudage va culminer à 96 mètres pour que la flèche puisse être reconstruite avant que la toiture et la charpente ne le soient.
Les appels d'offres sont en train d'être lancés. Pour l'instant, les délais sont respectés et tous les observateurs jugent raisonnable la tenue d'une première messe dans 3 ans tout pile.
Pierre Herbulot pour Europe 1. Et entre l'incendie de la cathédrale et la crise sanitaire, il n'y a qu'un pas. Louis Dragnel, Emmanuel Macron, fera d'ailleurs le lien entre ces deux événements à l'occasion d'une visite du chantier de la cathédrale ce matin.
Absolument. Alors que la France franchit la barre des 100 000 morts du coronavirus, Emmanuel Macron cherche à tout prix à redonner de l'espoir. Et quoi de mieux que la restauration de Notre-Dame de Paris pour célébrer la grandeur de la France ? Le chef de l'État profitera donc de ce déplacement pour remercier tous ceux qui ont sauvé la cathédrale des flammes, que ce soit les prêtres ou bien sûr les pompiers, et aussi tous les artisans qui travaillent d'arrache-pied pour reconstruire la charpente, les voûtes, les orgues, les vitraux, ainsi que les 340 000 donateurs. Mais la politique n'est jamais loin et Emmanuel Macron, fortement critiqué dans sa gestion de la crise sanitaire, a l'intention de saluer l'esprit de résilience de la France à travers la résurrection de Notre-Dame. Un esprit de résilience s'inscrivant dans une tradition millénaire et une détermination française qui permettront demain de sublimer le chef-d'œuvre abîmé par le feu. Autant de parallèles avec la crise sanitaire et de messages subliminaux envoyés par Emmanuel Macron exactement au moment où il s'apprête à donner un horizon de réouverture des lieux publics et donc de restauration à venir du pays.
Et oui, horizon de réouverture effectivement, puisqu'une réunion sur l'après-confinement est programmée ce soir à 18h à l'Élysée.
Il s'agira de fixer les conditions de réouverture des lieux aujourd'hui fermés au public. L'échéance avait été fixée à la mi-mai.
Un mois donc pour se préparer et l'espoir d'une décision claire pour ces restaurateurs rencontrés par Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Le plan envisagé par le gouvernement semble très progressif. Il y aurait 3 phases de réouverture, d'abord celle des terrasses, ensuite celle des salles de restaurant mais avec une jauge, avant enfin la réouverture totale et sans restriction. Le calendrier n'est pas encore établi, chacune des étapes pourrait durer plusieurs semaines. C'est ce qui inquiète certains restaurateurs comme Laurence Candouzi, gérant du bar à tapas Le Loti à Paris.
Il faudrait que ces étapes effectivement elles soient raccourcies. Deux semaines par deux semaines me semble le plus cohérent. Le problème dans tout ça, c'est ok pour redémarrer, ça peut être une bonne idée, mais si ça dure trop longtemps, financièrement ce sera toujours pareil. Est-ce qu'on va continuer à toucher des aides ou alors est-ce qu'ils vont nous laisser comme ça ouvrir, mais sachant que ce sera des chiffres d'affaires anecdotiques. Si on n'a pas les aides en plus, on pourra pas continuer quoi.
Thomas, le directeur adjoint du restaurant de Burger Paris-New York, reste très prudent, échaudé par une année de pandémie.
Le plus tôt est le mieux, mais il faut que ce soit pérenne derrière. Et si c'est pour revenir en arrière dans les semaines qui suivent, parce que sanitairement ça répond pas, c'est pas intéressant quoi. Donc à voir, tant qu'on n'y est pas, on attend.
On attend et on continue la vente à emporter, devenue la règle depuis le mois d'octobre. Le burger se déguste à domicile et sur le pas de la porte, un petit groupe de livreurs patients.
Et comme la France, nos voisins aussi préparent la suite. La Belgique a fixé au 8 mai la réouverture des terrasses. Ce sera dès lundi prochain en Suisse, malgré une situation sanitaire toujours tendue.
Le coronavirus qui a commencé à frapper l'Europe il y a plus d'un an. Aujourd'hui, la France s'apprête à franchir la barre symbolique des 100 000 morts.
Comme l'Italie déjà ou la Grande-Bretagne. 100 000 morts du Covid selon les chiffres officiels. Car en réalité, ce seuil a été dépassé depuis longtemps, selon Jean-Marie Robin, directeur de recherche à l'INSERM.
Moi, mes calculs me montrent que le nombre de décès avec une mention du Covid devrait être de l'ordre de 117 000, 17 000 de plus que les 100 000 annoncés par le décompte de Santé publique France. La plus grosse partie de ces morts invisibles, c'est d'abord ceux qui sont morts à domicile chez eux, parce qu'il n'y a aucune surveillance au quotidien de la mortalité à domicile. L'autre explication, c'est que Santé publique France ne couvre que, les secteurs actifs de l'hospitalisation, c'est-à-dire les services de soins critiques. Par contre, Santé publique France n'a aucune visibilité sur ce qui se passe dans les USLD, c'est-à-dire les unités de soins de longue durée. Ça représente 30 000 lits en France et c'est là que finissent les gens qui sont les plus fragiles, les plus dépendants. Et là aussi, c'est un angle mort total de la surveillance épidémiologique au quotidien.
Jean-Marie Robin, directeur de recherche à l'INSERM, joint par Roman Hocquet pour Europe 1.
Une mortalité exceptionnelle liée au Covid, déjà soulignée par l'INSEE, mortalité en hausse de 9% l'an dernier. La conséquence, c'est qu'un peu partout en France, les cimetières ont dû se réorganiser, comme l'a constaté Jean-Gabriel Bourgeois à Amiens pour Europe 1.
Au cimetière Saint-Pierre, 10 000 tombes, 2 nécropoles militaires, un carré musulman et 20% d'enterrements en plus en 2020. Dans les larges allées arborées, des lapins gambadent pendant qu'une cérémonie se déroule.
C'est la dernière tombe disponible, l'inhumation a lieu derrière nous.
Lydéric Louette gère les cimetières de la ville. Il vient d'aménager un nouvel espace pour enterrer les morts, le dernier bout de terrain dans l'enceinte du cimetière.
On a cette plaine qui nous permet de recréer environ 500 emplacements. Il va y avoir la création de deux caveaux provisoires. La création d'allées, tout sera engazonné.
La surmortalité liée à la pandémie a bouleversé les rites religieux, explique Olivier Jardet, adjoint au maire délégué à l'état civil.
Le carré musulman était à saturation, mais le carré juif aussi. Il y avait beaucoup de musulmans qui souhaitaient être inhumés dans leur pays d'origine, mais actuellement, c'est pas possible. Tout est bloqué. Et donc, il y a une gestion de l'espace avec une poussée importante du nombre de décès, malheureusement.
Mais également une hausse spectaculaire des crémations. 38% des décès cette année, c'était 1% en 1980. Un nouveau columbarium doit être installé dans les prochains mois. Amiens, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et ce manque de place dans les cimetières, il se manifeste aussi en Italie. C'est ainsi qu'à Rome, un entrepreneur à la tête d'une société d'affichage a installé plusieurs panneaux de 9 mètres sur 7 dans la ville pour rendre hommage à sa maman. « Maman, pardonne-moi de ne pas avoir pu t'enterrer », peut-on lire sur ses affiches. Plus d'un mois après le décès de sa mère, aucun lieu de sépulture n'a encore pu être trouvé.
C'est glaçant, il faut s'y imaginer hein, ces affiches 9 mètres sur 7. Et face à ces deuils impossibles, il faut que la souffrance soit reconnue. C'est ce que disait tout à l'heure à 5h40 la psychologue Marie de Henzel, invitée de Sébastien Krebs, alors qu'un hommage sera prochainement rendu, sans précision hein, pour le moment, quant à une éventuelle date.
Des doutes sur les effets secondaires liés au vaccin et pour éviter que la campagne de vaccination ne patine, le gouvernement n'exclut pas d'anonymiser les doses administrées, ne plus dire quel sérum est délivré, notamment sur les deux jumeaux Moderna et Pfizer. On y reviendra tout à l'heure dans le journal de 8h.
Alors on parlait tout à l'heure de l'espoir suscité par la réouverture des bars, des restaurants ou des musées. En voici un autre, l'espoir de pouvoir voyager cet été. Un dossier sur lequel plante l'Union européenne.
Oui, avec ce pass sanitaire qui doit nous permettre de circuler plus facilement en Europe. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Les 27 se sont mis d'accord hier pour une entrée en vigueur fin juin.
Oui, parce que l'objectif, c'est vraiment que les citoyens européens disposent d'un outil pratique qui leur facilite la vie cet été, surtout s'ils vont dans un pays dont ils ne parlent pas la langue. Sur le certificat européen, il y aura donc vos vaccins, seulement ceux validés par l'Europe. Si vous avez été malade, vous serez considéré aussi comme immunisé pendant au maximum 180 jours. Et enfin, les résultats de vos tests figureront sur le support. Ces informations pourront donc être lues via un QR code, facile à scanner, notamment pour les compagnies aériennes. Si dans les mois qui viennent, les connaissances scientifique évolue, eh bien la Commission européenne pourra modifier ses critères. Enfin, les 27 gouvernements insistent. Ce certificat n'est pas un document de voyage, pas un passeport. Il permet juste de montrer de façon simple qu'on respecte les exigences, s'il y en a, résume un diplomate, car chaque pays va rester libre de définir les conditions d'entrée sur son sol, par exemple s'il faut un PCR de moins de 48 ou de 72 heures. La législation doit encore être votée par le Parlement européen, probablement début juin, avant d'entrer en vigueur.
Les précisions d'Isabelle Horry. Le succès de la reprise économique dépendra-t-il de nos bas de laine ? Selon l'OFCE, si les Français dépensaient 20% de l'épargne accumulée pendant la crise sanitaire, la croissance atteindrait 6% l'an prochain, ça 2 points de plus que la prévision du gouvernement.
Encore faut-il porter des bas de laine en 2021, Marion Calais. 7h11, mais c'est un témoignage ce matin. 7h11, dans un instant sur Europe 1, l'adversaire du Paris Saint-Germain, on le connaît désormais pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais d'abord, écoutez bien, on va s'intéresser dans ce journal à ce choix assumé par de plus en plus de femmes, celui de ne pas avoir d'enfants.
Bonjour Virginie Riva. Vous allez nous expliquer ce phénomène dans un instant, mais d'abord un témoignage, celui de Chloé Chaudet, maîtresse de conférences en littérature, qui sort aujourd'hui un livre intitulé « J'ai décidé de ne pas être mère », dans lequel elle raconte notamment la pression sociale qui continue aujourd'hui d'entourer la maternité ou la non-maternité.
Alors dans mon cas, bon, j'ai pas de difficulté à exprimer ce choix, hein, mais ce que je trouve très souvent fatigant, voire absolument épuisant, c'est les questions qui viennent après. Hein. Pourquoi ? Est-ce que c'est un choix personnel ? Est-ce que tu ne vas pas le regretter ? Est-ce que tu n'as pas peur de finir seule ? Hein, autre grand classique. Bon, je suis vraiment sûre de moi. Mais ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que ça n'empêchait pas les tiraillements, les hésitations, les moments de doute. Ben, ces doutes, bon, c'est vrai qu'ils se sont atténués au fil des années dans mon cas, mais je pense qu'ils ne pourront jamais être entièrement tus tant que le choix de ne pas être mère restera si mal accepté. C'est un choix comme un autre. Hein. Il y a autant de manières de s'accomplir en fait que d'être femme. Et pour certaines femmes, cet accomplissement ne passe pas par la maternité.
Une forme d'accomplissement différent donc revendiquée. Selon Chloé Chaudet, qui se base sur une étude de l'INED, l'Institut d'études démographiques, elle serait 1 million en France à avoir choisi de ne pas être mère. 1 million, un chiffre qui est loin d'être anecdotique avec des explications très diverses, Virginie Riva.
Toutes les études le prouvent, c'est avant tout un désir de liberté qui explique ce choix, liberté de vivre sa vie professionnelle, son couple, liberté d'improviser au quotidien, un choix qui s'explique aussi par le parcours de vie et qui peut basculer à tout moment. La liste des raisons est en réalité longue et très variable selon les femmes, mais s'ajoutent des facteurs philosophiques. Pour certaines, c'est l'angoisse environnementale, peur de polluer encore davantage, de participer à la destruction de la planète à cause de la surpopulation, une inquiétude plus sourde face au devenir économique ou politique de la société. D'autres y voient un engagement féministe, alors qu'historiquement, les féministes ont plutôt lutté pour le droit à la pilule et à l'avortement. Aujourd'hui, le nouveau combat de ces femmes, c'est de pouvoir dire haut et fort qu'elles ne veulent pas d'enfants, en dénonçant la pression sociale autour de la maternité. Entre évidemment en jeu dans la décision le rapport à ses parents et à son enfance. On peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir reproduire des souffrances subies.
Et au-delà des femmes, hein, ces couples aussi, de manière générale, qui choisissent de ne pas avoir d'enfants, les no kids ou les child free, Virginie Riva. Merci.
Cette fois, l'affiche est connue. Ce sera donc le PSG face à Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions.
Match aller le 27 avril prochain. Manchester City, un adversaire que les Parisiens connaissent bien, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, Manchester City, c'est une vieille connaissance. Il y a 5 ans, le PSG avait été éliminé par le club mancunien en quart de finale, précipitant les départs de Laurent Blanc, mais aussi de Zlatan Ibrahimovic. Depuis, Paris a accueilli Neymar et Mbappé, et Manchester City, entraîné par l'un des meilleurs techniciens du monde, Pep Guardiola, a repris cette saison son leadership en Angleterre. Les Citizens, comme on les surnomme, possèdent la meilleure attaque et la meilleure défense de leur championnat. Emmenés par le prodige belge Kevin De Bruyne qui multiplie les offrandes, ils n'ont perdu aucun match en Ligue des Champions. Ils ont d'ailleurs croisé 2 fois l'OM cette saison. Bilan, 2 défaites des Marseillais, à chaque fois sur le score de 3-0. Bref, un adversaire redoutable, détenu par un richissime milliardaire émirati, propriétaire d'une dizaine de clubs dans le monde, dont un en France depuis quelques mois.
Rendez-vous donc le 27 avril 3 sur lequel comptent aussi donc les investisseurs de Manchester City.
Merci beaucoup Marion Calais, 7h15 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et je vous présente ce matin un nouveau podcast Europe 1 Studio.
Moi, je suis à ce moment-là.
Non, totalement. On va l'entendre un tout petit peu plus tard. Je voulais vous proposer une bande-annonce sur ce podcast qui s'appelle Première Ligne, 50 ans d'action de Médecins Sans Frontières, 50 ans sur les fronts de guerre, d'épidémies, de catastrophes naturelles. À 7h40, vous venez de l'entendre, je reçois Ronnie Broman. Il sera là en direct, cofondateur, ancien président d'MSF. Je lui parlerai aussi de l'actualité de l'ONG en pleine crise sanitaire mondiale. C'est le tête-à-tête Europe Matin à 7h40. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré avant le regard international de Jean-Sébastien Soldaini.
Un tas de cendres qui attire au pays du Cèdre, le port de Beyrouth, tous les pays se battent pour décrocher le marché de sa reconstruction et le gagnant obtiendra bien plus.
Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1, 7h15.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h17 sur Europe 1, l'heure de l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'inquiétude monte face au mur de dette auquel font face les entreprises, au point que le gouvernement envisage d'effacer certaines dettes pour éviter les faillites.
Oui, vous savez, ce qui remonte du terrain, c'est que de plus en plus d'entreprises sont étranglées par les dettes accumulées depuis le début de la crise du Covid, et quand elles se présentent devant les tribunaux de commerce, c'est souvent trop tard. 8 entreprises sur 10 sont alors purement et simplement liquidées, ce qui est une proportion inédite depuis une vingtaine d'années. Alors il faut dire que les entreprises françaises ont abordé la crise avec un niveau de dette qui était déjà supérieur à la moyenne de nos voisins. En France, on a plutôt tendance à se financer plus par le crédit bancaire que par des fonds propres. Et cette fragilité de la structure financière des entreprises les rend plus vulnérables en cas de choc, évidemment.
Pour éviter un tsunami de faillite, Bercy envisage d'annuler une partie de ses dettes.
Alors oui, l'État travaille sur plusieurs formules d'étalement, voire dans certains cas d'annulation d'une partie de ses dettes. Bien sûr, ça se fera au cas par cas, explique-t-on à Bercy. Après une crise, lorsque la reprise se dessine, il y a toujours un moment de vérité et là, nous y sommes. Les aides, les prêts de garantie, les moratoires sur les charges, les avances remboursables, etc. Tous ces dispositifs qui ont permis de tenir avec succès vont s'estomper et donc il faut éviter que ça se traduise effectivement par des faillites en chaîne. Le problème, c'est que l'État, évidemment, n'a pas vocation à aider tout le monde ni à soutenir des entreprises qui, de toute façon, ne seraient pas viables.
Il va falloir faire le tri.
C'est toute la difficulté. On peut comprendre que l'État, sous la pression d'ailleurs, veuille sauver telle ou telle entreprise qui semble passagèrement étranglée par ses dettes, mais qui paraît saine. La question, c'est de savoir où on place le curseur, quels critères on retient, jusqu'où on va dans le soutien. Est-ce qu'il faut aussi privilégier tel ou tel secteur? On voit bien que quand on rentre dans le détail, ça devient très compliqué. On peut aussi questionner la philosophie de cet interventionnisme. Le risque, c'est que l'État sauve ce qu'on nomme des entreprises zombies qui ne sont pas viables, mais qui sont soutenus artificiellement, ce qui crée des distorsions de concurrence. Vous le voyez, le sujet n'a pas fini de faire débat.
Et on va suivre ce débat. Merci Nicolas Barré. Alors avec vous, on en parlait hier, Nicolas, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Coinbase, qui n'a pas manqué ses débuts à Wall Street.
Ah, oui.
Toute première cotation au Nasdaq, l'action a terminé à $328. C'est bien plus que le prix de référence, qui était à 250. Coinbase, ça devient la plus grosse valorisation pour une nouvelle entreprise américaine qui entre en bourse. J'ai vu 86 milliards de dollars. Précédent record, ça donne une idée des enjeux. C'était Facebook en 2012 à 81 milliards. Merci Nicolas Barré. 7h19 sur Europe 1. Le regard international ce matin avec Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Grand reporter à la rédaction d'Europe 1. Et ce matin, Jean-Sébastien, votre œil se pose sur le Liban. Le port de Beyrouth qui, rappelons-le, a été le théâtre d'une gigantesque, impressionnante explosion au mois d'août dernier. Un port qu'il faut reconstruire.
C'est ça. Et aujourd'hui, sur le port, c'est plus une odeur de soufre qui plane. C'est un parfum d'enchères à coups de milliards de dollars et d'idées qui foisonnent par millions. Ça va d'une simple reconstruction du port par l'armateur français CMA-CGM à un ambitieux programme immobilier vendu 30 milliards par les Allemands. En plus des activités de commerce maritime, la remise en état inclut des espaces verts, des plages et même un smart port. On se croirait dans un concours de marketing international et les concurrents viennent de partout avec des projets chinois, turc, russe et j'en passe.
Jean-Sébastien, c'est uniquement du business que cherchent ces investisseurs ?
Non, évidemment. Dans cette région, les milliards et les idées, ça sert avant tout à acheter de l'influence. Quand vous sortez du port de Beyrouth en bateau, vous mettez le cap à gauche, là, sur bâbord. En quelques heures, vous êtes au-dessus d'immenses champs de gaz, les mêmes que ceux convoités par Recep Erdogan. Du gaz offshore, il y en a aussi au nord, près de la Syrie. Les Russes y sont déjà et s'imaginent bien étendre de la sorte leur zone de prospection. Quant à la Chine, s'implanter à Beyrouth, ça veut dire consolider ses liens avec l'Iran. L'Iran qui, je le rappelle, tire les ficelles du Hezbollah libanais. Avec tout ça, la France va avoir du mal à conserver ce qu'elle considère encore comme son précaré. Et il ne faut pas croire que nos alliés nous laissent le champ libre. Je vous parlais d'un projet allemand tout à l'heure. Ça ne plaît pas du tout chez nous. Une note du Washington Institute précise que Paris est très agacé par cette initiative allemande.
Oui, mais alors comment est-ce que ces projets peuvent être lancés, avancés, alors que l'État est quasi inexistant au Liban en ce moment ?
C'est un des nœuds du problème. Pas de gouvernement, ça signifie pas de projet bien défini et encore moins d'appel d'offres. Ce n'est pas demain qu'un Libanais va décacheter des enveloppes pour révéler le nom du grand gagnant. Et puis, il y a la société civile qui se méfie. Voir tous ses appétits s'aiguiser autour du port de Beyrouth, ça ne rassure pas. Elle réclame de la transparence dans l'attribution des marchés, mais il faut reconnaître que c'est pas dans la coutume locale. Tout ce flou attire, margoulin de tout poil, vendeur d'influence à la sauvette. Le plus navrant, c'est que pendant des siècles, les Libanais étaient présentés comme les rois des affaires. Désormais, le monde se presse à leur chevet pour tenter de les pigeonner.
Merci Jean-Sébastien Soldaini, le regard international. Il est 7h21. Tout de suite, l'édito sport de Virginie Fulpin, juste avant votre rendez-vous d'histoire. Stéphane Bern, bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Alors, aujourd'hui, eh bien, vivre chichement, c'est quand on vit avec peu de moyens, parce que la situation n'est pas au beau fixe ou parce qu'on est adepte de la décroissance. On va s'arrêter un petit peu sur cette expression.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h23 sur Europe 1, c'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les Jeux Olympiques de Tokyo commencent dans 99 jours, l'Euro de football dans moins de 2 mois. Pour vous, c'est très étonnant de voir à quel point les deux grands événements sportifs de l'été se préparent différemment en pleine crise sanitaire.
C'était Diriner qui disait hier à votre micro, Mathieu, qui s'apprêtait à vivre des Jeux historiques.
De toute façon, ça sera des Jeux Olympiques historiques. D'avoir repoussé d'un an les Jeux Olympiques, d'avoir un public 100% japonais, d'avoir plein de choses différentes qu'on n'a jamais connues auparavant.
Voilà, dans l'inconnu, hier on était à J-100 des JO, l'équipe de France Olympique et Paralympique entame son sprint final, les candidats pour être porte-drapeau se sont dévoilés, on entre dans le vif du sujet, on a envie d'y être, de s'enthousiasmer, mais les athlètes ont bien conscience que ce sera différent. Regardez, au cours de cette journée symbolique des J-100, hier le relais de la femme olympique a été détourné au Japon. Il n'est pas passé dans les rues d'Osaka comme prévu, mais dans un parc d'une ville voisine sans spectateurs. C'est un symbole qui fait mal. On sait aussi que ces Jeux sont toujours rejetés par 70% des Japonais qui préféreraient les voir reportés encore ou même annulés parce qu'ils craignent un emballement du virus avec le débarquement de sportifs de 205 pays. Ces Jeux posent des questions éthiques. Il faudra par exemple beaucoup de personnel médical pour l'événement. Mais on le trouve où ? On dépeuple les hôpitaux de leurs soignants en plein Covid. Il y a forcément des solutions, mais je trouve important qu'on ne mette pas ces questions essentielles sous le tapis. On vit depuis un an en s'adaptant en permanence et c'est pareil pour les Jeux et pour les sportifs.
Alors c'est vrai qu'on se pose moins de questions autour de l'Euro de foot.
Alors ça représente moins de monde, 24 équipes, ça n'est pas exactement 205 pays, mais cet Euro a lieu dans 12 villes hautes avec des sélections qui vont jouer dans différents stades. Donc se balader dans tout le continent, pas sûr que ce soit le meilleur moyen de garantir l'étanchéité d'une bulle sanitaire, c'est peut-être possible, mais ce qui me gêne, c'est que ce soit même pas un sujet de discussion. Tout ce que l'UEFA demande, c'est que les villes hautes s'engagent à ce qu'il y ait du public dans les stades. On emploie assez souvent l'expression hors sol en ce moment et elle correspond assez bien à la façon dont les instances européennes préparent cette compétition, comme si rien, même pas une pandémie, ne pouvait les détourner de ce qu'ils avaient prévu au départ. Ça viendra peut-être, mais l'Euro, c'est dans moins de 2 mois, autrement dit, demain. Et se poser des questions, débattre, comme pour les Jeux, ça me semble plus adapté à la période, parce que le sport ne peut pas vraiment se vivre en vase clos.
Oui, mais au moins anticiper. Virginie Fulpin, merci beaucoup, c'est l'édito sport sur Europe 1. 7h25, Stéphane Bern est avec nous pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour Virginie, bonjour à tous. Quand, de façon subie ou de façon volontaire, on décide de vivre en baissant sa consommation, ou quand on appréhende sa vie de façon plus modeste, un peu comme un footballeur, vous voyez, on dit qu'on vit chichement. Mais d'où vient cette expression ?
Vivre chichement, ça veut dire de manière chiche. Alors j'imagine que ça n'a pas grand-chose à voir avec le chiche de cap ou pas cap. Chiche ou pas chiche ?
Non, ça n'a rien à voir, en effet. Ni avec le chiche kebab, ni avec le pois chiche. Dans chiche kebab, d'ailleurs, le chiche désigne la broche en métal sur laquelle on cuit la viande. Et concernant le pois chiche, le mot vient du latin, si c'est. On le retrouve quand on dit pois chiche en italien. CC, en anglais chickpea, mais pas du tout dans l'espagnol garganzo. Cicéron, oui, le célèbre homme d'État romain, a un nom qui signifie pois chiche. Ses partisans l'expliquent parce qu'il aurait été marchand de pois chiche. Ses détracteurs, eux, disent que c'est parce qu'il avait une grosse verrue sur le nez de la taille d'un pois chiche. Notez que les deux ne sont pas incompatibles. Mais revenons, si vous le voulez bien, à notre vivre chichement. Au XIIe siècle, un chiche était un radin. Vivre chichement prend donc tout son sens. On vivait en faisant un minimum de dépenses. Aujourd'hui, vivre chichement, c'est plutôt débarrasser de cette connotation d'avarice. Et elle décrit celles et ceux qui ont choisi de vivre dans une certaine pondération, quelle qu'en soit leur motivation. En espagnol, pour dire vivre chichement, on dit caminar con los codos. Comprenez, on marche sur les coudes. Ça permet de ne pas abîmer ses souliers. En algérien, une formule dit il est bouché et il se nourrit de navets. Pourquoi pas? Aux Pays-Bas, où on vit chichement, on préfère dire ne pas avoir d'ongles pour se gratter les fesses. Voilà une expression qui est plus chiche que chic. Et. Mais ça va avec tout.
On s'en resservira. 16h tout à l'heure, c'est historiquement vôtre.
On réunit Gustave Eiffel, puis l'inventeur Franz Reichelt et l'américaine Erika Eiffel. Leur point commun ? La tour Eiffel a changé leur vie. La dernière s'était même mariée avec elle. Oui, oui.
À tout à l'heure, 16h.
7h28 sur Europe 1, nous sommes avec Laurent Cabrol, c'est l'heure de la météo.
Alors je reviens sur les points froids, la poche d'air froid, moins 4 à Saint-Étienne, Épinal, Luxeuil, Vichy, Charleville. Nous sommes là dans une poche vraiment où les températures sont largement négatives. Sur la moitié nord, une petite moitié nord, on peut dire qu'il y a pas mal de 0 degré, voilà pour ces mauvaises nouvelles. Ensuite les températures sont un peu plus respectables, à Alençon 1 degré, 2 à Bourges en ce moment, 3 à Marseille et Lyon, 4 à Paris, à Toulouse et Brest, 6 à Bordeaux, 8 à Toulon. Dans la journée, entre 10 et 17 degrés, ce sera un petit peu comme hier et c'est, ma foi, supportable, même si c'est froid pour la saison. En ce qui concerne la couleur du ciel, les gagnants, les vainqueurs, ceux qui ont le droit de sourire, Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes, Limousin, Sud-Ouest, tout le Sud-Ouest, le Languedoc et le Roussillon, parce que là, il y aura du soleil, mais avec du vent, malheureusement. Vent de nord, nord-est, toujours, qui rafraîchit l'atmosphère. En Basse-Normandie, Val-de-Loire, région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, des éclaircies 50-50. Et puis sur le nord, la Picardie, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Provence et la Côte d'Azur. Un temps instable, avec des giboulées, avec parfois des averses et de la neige même à 600 mètres d'altitude. Voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut savoir aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est presque 7h30.
Et c'est une information Europe 1. L'éducation nationale a commandé plus de 52 millions d'autotests. Ils seront distribués dans tous les établissements scolaires à partir de la semaine prochaine. Dans ce journal, Médecins sans frontières qui s'inquiètent de la difficulté à vacciner les SDF. Joe Biden qui annonce que les soldats américains auront quitté l'Afghanistan d'ici le 11 septembre. L'Assemblée nationale qui porte plainte pour parjure contre une haute magistrate qui avait témoigné devant les députés dans l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy. Et puis le Paris Saint-Germain affrontera Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Le jackpot est déjà assuré pour le PSG.
Et juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy, bien sûr. Ronnie Broman, médecin, cofondateur et ancien président de Médecins Sans Frontières. C'est le tête-à-tête Europe Matin, 7h40. L'édito politique Nicolas Bétou.
Je vais vous raconter une histoire d'eau et de tempête ou comment une banale publicité a provoqué une polémique autour du communautarisme.
Et puis Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sur Europe 1, l'essayiste Mathieu Boccoté qui publie La révolution racialiste et autres virus idéologiques aux presses de la cité. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on commence donc avec cette information qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Le ministère de l'Éducation nationale a commandé plus de 52 millions d'autotests à destination des établissements scolaires pour les enseignants et pour les élèves.
Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
Spécialiste éducation d'Europe 1. Maintenant, il s'agit de s'organiser pour être prêt d'ici la rentrée.
Oui, le ministère a bien commandé 52,5 millions d'autotests pour les lycéens et les personnels de l'éducation nationale pour un coût total de 245 millions d'euros. L'idée, c'est maintenant de savoir comment les déployer. Première hypothèse sur la table, réaliser les autotests en classe, pourquoi pas durant les cours de SVT, avec une première partie théorique d'explication des consignes, puis une deuxième, pratique. Chaque élève à sa table avec son long coton-tige dans le nez, mais les enseignants sont perplexes. Que faire s'il y a des élèves positifs? Comment meubler pendant les 20 minutes d'attente du résultat? Il demande à ce que les tests soient plutôt faits à la maison et qu'ils soient sous contrôle des parents. Même réticence du côté du syndicat des proviseurs, le SNPDEN, consulté hier par le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Ok pour servir de base logistique, dit le syndicat, s'il faut entreposer des autotests, mais hors de question de demander aux enseignants d'encadrer ça. Un chef d'établissement nous glisse, un bon tuto sur YouTube sera plus efficace qu'un agrégé d'espagnol. La question doit être tranchée au niveau interministériel.
Virginie Riva. La France s'apprête à franchir la barre symbolique des 100 000 morts du Covid officiellement, car selon les données de l'INSERM, vous l'entendiez dans le journal de 7 heures, on se rapproche plutôt des 117 000 décès. Et à noter ce rappel de plusieurs experts ce matin, il faut absolument aérer, une consigne aussi simple que capitale pour bloquer le virus, mais qui n'est toujours pas suffisamment appliquée.
Plus de 11 millions de Français ont reçu une première injection de vaccin. Près de 4 millions ont reçu 2 doses.
Et la vaccination s'accélère, mais pas pour tout le monde. Elle reste difficile d'accès pour les plus précaires et les sans-abri. Et c'est ce qui fait réagir Corinne Thor, la responsable des programmes Médecins sans frontières en France. Le programme actuel de vaccination n'est pas adapté à cette population vulnérable face au Covid.
Ce système-là ne fonctionne pas pour les précaires, qui n'ont pas du tout accès à Doctolib, qui sont incapables de pouvoir prendre un téléphone et puis de contacter et d'attendre pendant des heures d'obtenir un rendez-vous. Une personne à la rue qui va venir une fois ne va peut-être pas revenir une deuxième fois vers une clinique mobile, par exemple. Et il est complètement impossible de pouvoir vacciner avec 2 doses comme avec le Pfizer ou le Moderna ou l'AstraZeneca. Il est quasiment impossible de pouvoir faire un suivi de la personne qui est à la rue pendant un mois ou 2 mois, de pouvoir surveiller l'état de santé de la personne si jamais elle ne supportait pas la première dose. Donc la seule option, ce serait d'avoir un vaccin à dose unique, comme le Johnson & Johnson. Ce serait la probabilité de pouvoir vacciner ce public particulièrement vulnérable, car vu les conditions sanitaires, on a des risques de pathologies supplémentaires qui pourraient évidemment les mettre en danger s'ils étaient atteints de la Covid-19.
Corinne Thor de Médecins sans frontières avec Johanna Chabas. Et puis les enfants et adolescents en détresse à cause de la situation sanitaire pourront bénéficier de 10 séances 100% remboursées chez le psy, un forfait activable pendant toute la durée de la crise.
À l'étranger, Joe Biden confirme le retrait des troupes américaines d'Afghanistan d'ici le 11 septembre.
Oui, soit pour le 20e anniversaire des attentats du World Trade Center, c'est justement ce qui avait provoqué l'intervention des États-Unis.
Il est temps de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Pour les troupes américaines, il est temps de rentrer à la maison. Je suis maintenant le 4e président à gérer la présence de nos troupes en Afghanistan. Je ne transmettrai pas cette responsabilité à un 5e. Nous sommes partis en guerre avec des objectifs clairs, nous les avons atteints. Ben Laden est mort, Al-Qaïda a été neutralisé en Afghanistan. Nous commencerons ce retrait final le 1er mai et nous aurons quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire des odieux attentats du 11 septembre.
7h34 sur Europe 1. L'Assemblée nationale a déposé plainte pour parjure contre une haute magistrate.
Contre Catherine Champrenault, procureure générale de Paris, dans le cadre de l'affaire des Fadettes en lien avec Nicolas Sarkozy. L'été dernier, elle avait assuré devant une commission ne pas avoir été informée de l'enquête. Vous allez l'entendre avec Guillaume Bié. Mais depuis, il y a eu des révélations.
Cette enquête n'a jamais fait l'objet d'un suivi par le parquet général qui n'en était pas informé.
C'était le 20 juillet, à l'Assemblée, devant la commission d'enquête sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Catherine Champrenault, la procureure générale de Paris, assurait alors, je cite, qu'elle n'a jamais eu de remontée sur le contenu et les modalités de cette enquête. La fameuse enquête cachée, comme l'appellent les proches de Nicolas Sarkozy, celle visant à trouver qui aurait informé son avocat qu'ils étaient sur écoute. Or, le magistrat du parquet national financier qui a dirigé cette enquête a écrit en 2019 à Catherine Champrenault, notamment pour évoquer cette procédure en détail. Cette lettre, révélée depuis par la presse, laisse entendre aux députés que la procureure générale savait et qu'elle aurait donc menti sous serment. Ce sera à la justice de trancher. Or, sur ce point, en septembre, l'inspection sur le PNF avait justement dénoncé le fait que le parquet général n'avait pas été informé.
Guillaume Bié, chef du service police justice d'Europe 1.
Et puis l'armoire à trophées du PSG n'est pas encore remplie, mais le portefeuille, oui.
Oui, Paris qui affrontera Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions le 27 avril. Alors évidemment, ce n'est pas ce qu'on leur souhaite, mais admettons, même si les Parisiens perdaient ce match, eh bien Julien Froment, les finances du club seraient de toute façon les grandes gagnantes.
Oui, le service gestion comptabilité du Paris Saint-Germain a dû apprécier mardi soir car selon les estimations de l'Observatoire du sport business, le club de la capitale a amassé plus de 110 millions d'euros de primes avec cette qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Vincent Chaudel est économiste du sport.
C'est important parce que c'est une année Covid où les clubs sont privés de recettes billetterie. Il y a un impact aussi sur leur sponsoring, les loges et autres recettes. On peut estimer aujourd'hui, ou du moins il y avait des prévisions qui parlaient de 200 millions d'euros de déficit pour le PSG, une campagne à 110 millions d'euros en Champions League est évidemment très importante pour amortir et réduire ce déficit.
Une prime qui peut encore augmenter si le Paris Saint-Germain, comme l'an passé, se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions. Le club toucherait alors au total 134 millions d'euros. Et pour le titre, eh bien, ce serait environ 6 millions d'euros supplémentaires dans les caisses du club de la capitale.
Julien Froment a noté que l'autre demi-finale de la Ligue des Champions opposera le Real Madrid à Chelsea.
Merci beaucoup Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Ce matin, nous vous présentons Première Ligne, un podcast de Médecins Sans Frontières réalisé, produit par Europe 1 Studio. On va en parler, mais aussi parler de l'actualité d'MSF avec un de ses fondateurs, président de l'ONG de 1982 à 1994, Ronnie Broman, dans le tête-à-tête Europe Matin, dans quelques minutes. Mais tout de suite, la touche âme. Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu Béliard. La République ne s'arrête pas de trembler après le dossier biscuits animaux. Hier, ce matin, de nouvelles révélations fracassantes.
Quel retour de vacances. 7h37.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1. L'heure de la touche âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Fort de mon énorme enquête d'hier, le Dinosaurus Gate, comme on l'appelle désormais. Nouvelle révélation ce matin, il y a du lourd. Depuis plusieurs années, on entend parler du Bitcoin. Eh bien, figurez-vous qu'en cherchant, j'ai fait une découverte très, très troublante. Non, pas du tout. Pas d'enquête aujourd'hui. Bah non. Enfin. Math. Assieds-toi, faut que je te parle. Cette journée est un peu spéciale. On est le 15 avril et on va arrêter ce massacre tout de suite. Je sais pas chanter. Les auditeurs ne le savent pas, mais c'est un de vos
2004, 2007.
Tout à fait, un de vos tubes préférés, vous pouvez l'avouer.
C'est vrai.
Mais assez parlé de vous. Nous sommes donc le jeudi 15 avril à la une aujourd'hui. Josiane Balasco, Alain Minc, Natacha Polony, Bruno Le Maire et Luis Fonsi, le chanteur de Despacito, qui ont un point commun avec vous, Mathieu.
Luis Fonsi aussi.
Tout à fait. Joyeux anniversaire Mathieu, le petit prince de la bande FM fête ses... fête son anniversaire. Restons
37, 37.
Vous ne vous doutiez de rien ?
Non, c'est super. Hors antenne, il m'a parlé du Bitcoin avant. Mais je dis ouais, super, vas-y.
Non, mais j'avais peur que vous grilliez la surprise. Quoi. Vous avez rien vu venir. Les bouteilles dans l'open space avec du liquide jaune qui pétille, ça vous a pas mis la puce à l'oreille.
Il y a beaucoup de bonbons ce matin.
J'aime beaucoup, mais vous êtes pas fut-fut. Des caisses de champagne dans les couloirs d'Europe 1, c'est forcément pour un anniversaire. Bref, comme je sais que vous êtes passionné de botanique, je vous ai fait livrer des ficus. Ça me fait plaisir, mais ce n'est pas mon seul cadeau. Ça fait des mois que je prépare ça dans le plus grand des secrets. Il n'a pas été facile à convaincre, mais avec l'aide du service politique de la station, j'y suis parvenu. Si je vous dis Tourcoing,
non.
Oui, il est avec nous ce matin. Bonjour Gérald Darmanin.
Oui, bonjour. Je tenais à souhaiter un joyeux anniversaire à Mathieu Béliard. Même si on a eu des désaccords, je reste persuadé que derrière ces airs de joueur de bolas enflammés, mangeur de graines de chia, se casse un honnête homme. Alors, bon anniversaire.
Ouais, bon, j'ai pas réussi à l'avoir.
Quelle imitation.
C'est pas faute d'avoir tenté. Mais à chaque fois que je disais que c'était pour votre anniversaire, ça coupait. C'est fou s'il y a comme tunnel à Paris. Mais c'est pas tout. À événement exceptionnel, dispositif exceptionnel pour fêter dignement votre anniversaire, les plus grands invités du 740, la crème du tête-à-tête nous rejoindra dans un instant. Seront avec nous. Fabrice Prioul, directeur général de la Frontox et co-gestionnaire des ronds-points de Romorantin Métropole. Jean-Pierre Michaud, auteur de « Le bonheur commence par un bon gratin dauphinois » aux éditions Marmiton. Evine Michère, quatrième vice-sous-délégué du maire du Gros du Roi, mais également Kevin Krez, champion départemental de Capla, catégorie moins de 25 ans, nuque longue. Que de bons souvenirs. Allez, dépêchez-vous de finir cette matinale, qu'on aille faire la fête. Je vous sens ému, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'ai hâte de voir votre tête quand Nicolas Barré sortira du fraisier géant qu'on m'a commandé.
Merci.
Bon anniversaire.
La touche âme. Je ne l'ai vraiment pas vu venir là tout de suite, maintenant en tout cas. Bertrand Chameroy, merci beaucoup tous les matins à 7h40 et à 10h avec Philippe Vandel dans Culture Média évidemment. 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Aujourd'hui, Médecins Sans Frontières et Europe 1 Studio lancent un nouveau podcast. Première ligne, 12 épisodes, 12 combats de l'ONG et autant de témoignages. 50 ans d'action d'MSF, de médecins de terrain qui parfois posent des questions politiques, éthiques, majeures. Et après 50 ans, une pandémie mondiale, une crise sanitaire inédite et toujours cette préoccupation, soigner ceux qui ne peuvent accéder aux soins. Co-fondateur de l'ONG, Ronnie Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, est mon invité.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Alors d'abord une... question qui est une question d'actualité finalement. Aujourd'hui, Médecins Sans Frontières va prendre une position très dure vis-à-vis des dirigeants brésiliens dénonçant une catastrophe humanitaire découlant de l'absence de réponse des autorités. Ça s'appelle un coup de pression ?
Ben, ça s'appelle une prise de position destinée à faire changer les choses. Quand MSF prend la parole, c'est pas simplement pour expliquer une situation, mais c'est aussi pour peser sur elle. La situation au Brésil est absolument catastrophique. Les autorités brésiliennes n'ont rien fait. Je le signale au passage, c'est pas simplement le Brésil comme ça. MSF est fortement implantée au Brésil. Il y a une section brésilienne
depuis 91.
Et ce sont donc aussi des Brésiliens de Médecins Sans Frontières qui protestent contre l'inaction, voire les actions perverses de leur gouvernement. Par action perverse, je veux dire la négation, par exemple, de la réalité de cette épidémie, de sa gravité, de l'intérêt du vaccin, bref, de toutes les énormités qu'a proféré ce gouvernement, et dont le résultat, aujourd'hui, est non seulement une épidémie qui est absolument hors de contrôle, mais l'apparition, du fait de la circulation du virus, de variants extrêmement dangereux qui mettent pas seulement les Brésiliens en danger, mais leurs voisins et au-delà des gens qui peuvent être touchés aussi par ce variant qui est, semble-t-il, plus dangereux que les autres.
Et cet exemple démontre à quel point votre travail, parfois, c'est aussi de faire de la politique, d'entrer sur ce terrain-là, en tout cas. Cette actualité, elle est mondiale, elle est médicale plus que jamais, mais, et je parle sous votre contrôle, MSF se tourne depuis 50 ans, je le disais, vers ceux qui sont privés de soins ou de l'accès aux soins. On l'entendait dans le journal il y a quelques minutes, MSF se préoccupe aussi, par exemple, de sans-abri ici, de leur vaccination. Sans frontières, c'est ici aussi.
Ah bien sûr, c'est la raison d'être même de Médecins Sans Frontières. Donc, si on ne connaissait qu'une frontière, c'est-à-dire la frontière nationale, et qu'on s'interdisait de travailler sur le territoire français parce qu'il est français, on trahirait la raison d'être de notre existence même.
Première ligne, pour les 50 ans d'MSF avec Europe 1 Studio, Ronnie Broman, on vous retrouve dans l'épisode 7, l'Éthiopie. Au milieu des années 80, l'aide récoltée pour lutter contre la famine en Éthiopie est en partie détournée par le gouvernement et utilisée pour transférer de force des populations. Épisode 7, silence, on déporte, extrait.
Moi, je suis à ce moment-là totalement convaincu qu'un crime de masse est en train d'être commis derrière le paravent de l'aide humanitaire. Et convaincu du fait, disons, un peu plus vaguement philosophique ou réflexif, que si on ne peut pas empêcher un crime d'être commis, au moins peut-on s'abstenir d'y participer.
Je poursuis finalement ma question sur le Brésil. Une ONG peut difficilement être neutre sur le terrain. MSF en opération, c'est forcément un acteur ?
Oui, bien sûr, mais MSF n'est pas la Croix-Rouge. La neutralité, c'est une notion diplomatique que la Croix-Rouge s'est appropriée dans des circonstances particulières, et pour des raisons d'ailleurs tout à fait entendable, mais Médecins Sans Frontières n'est pas la Croix-Rouge, nous avons notre liberté de parole. Naturellement, si nous sommes neutres, c'est au sens où nous ne prenons pas part à des hostilités, nous ne livrons pas des armes, nous ne défendons pas un belligérant.
Mais est-ce qu'il faut parfois accepter d'être manipulé, enjoué ? Est-ce que vous-même vous manipulez ? Enfin, c'est compliqué.
Mais tout le monde manipule tout le monde, d'une certaine manière, au meilleur sens du terme. Je ne veux pas parler ici d'actions couvertes, de choses clandestines, mais si vous voulez, pour que Médecins Sans Frontières, des équipes de Médecins Sans Frontières soient acceptées sur un terrain, il faut que ceux qui contrôlent ce terrain, c'est-à-dire les autorités, qu'il s'agisse d'une guérilla, d'un mouvement d'opposition ou bien d'un gouvernement légitime, il faut donc que le pouvoir en place y trouve son intérêt. S'il n'y a absolument aucun intérêt, on ne voit pas pourquoi il nous accepterait. Un pouvoir n'est pas angélique, il a ses objectifs, ses intérêts, et il les poursuit. Donc il y a toujours une part de manipulation. Il faut en être conscient, et c'est d'ailleurs aussi ça qu'apporte l'expérience, la capacité de recul dont nous nous prévalons à Médecins Sans Frontières pour tenter d'apprécier réellement ce que nous faisons sur le terrain. Au fond, la question qui se pose en permanence, c'est est-ce qu'on est plus utile au pouvoir ? Ou est-ce qu'on est plus utile à la population, sachant qu'on est toujours utile aux deux, mais que c'est une question d'équilibre et de curseur, comme pour d'autres situations.
Et vous êtes capable de répondre à cette question, vraiment ?
Oui, bien sûr. Oui. Enfin, répondre avec une certaine part de subjectivité, naturellement. Ce n'est pas une démonstration mathématique. Mais quand même, il y a des situations dans lesquelles on a conclu qu'on était plus utile au pouvoir qu'à la population, et la conclusion a été qu'il fallait se retirer, parce qu'on faisait plus de mal que de bien. Ça a été la grande leçon de l'Éthiopie, par exemple, dont on entendait un extrait. À un moment, on se rend compte, et au fond, c'est pas tellement étonnant, c'est toute action collective peut relever de cette catégorie-là. Elle a dévié, elle a dérivé, elle a été prise en main par le pouvoir qui en fait un atout pour sa politique, en l'occurrence politique
de, et dans ce cas-là, on se retire.
De déplacement forcé de population dans lesquelles nous étions un appât dans des pièges qui étaient tendus à celle-ci.
Autre terrain d'action d'MSF, on est en Afrique toujours, et ça résonne avec l'actualité de 2021, l'épidémie d'Ebola. Le récit de Lucie Perard-Drel, infirmière, première employée expatriée d'MSF, infectée elle-même par Ebola. La lutte contre une épidémie qui se mondialise, écoutez.
On était vraiment en train de courir après le virus. Le virus était dans plusieurs capitales. Il était exponentiel. C'est une des rares fois dans l'histoire d'MSF où MSF a fait appel aux armées. On est quand même un mouvement associatif qui est dans la promotion de la paix, qui est pas, enfin voilà, on travaille pas spécifiquement avec les armées. Et là, on a demandé au niveau international que les armées puissent venir sur cette épidémie pour aider.
Ronnie Broman, vous êtes médecin évidemment, mais aussi, je le précise, spécialisé en médecine tropicale, en épidémiologie. Et Ebola, c'est très récent, hein, 2014, c'est lointain aussi, ça nous a frôlé. Là, après un an de pandémie, on est dans une menace sanitaire permanente au niveau mondial. Il y a une mondialisation de la réponse sanitaire.
Ben oui, bien sûr. De toute façon, l'OMS et avant elle, l'Organisation internationale d'hygiène, qui était son ancêtre, si vous voulez, au début du siècle, ont été conçus parce qu'on sait que les microbes, les maladies ne connaissent pas de frontières et qu'elles se répandent à la faveur de la circulation des hommes, qui elle non plus n'a pas de géographie, n'a pas d'histoire. Les hommes circulent sur la planète et donc les germes circulent avec eux. Donc par essence, les maladies, et en particulier les maladies infectieuses et parasitaires, ne connaissent pas de frontières, mais ils peuvent connaître éventuellement des limites selon leurs modalités. Par exemple, Ebola est circonscrit dans des limites géographiques relativement bien cernées. L'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest, c'était Libéria, Sierra Leone, Guinée. L'épidémie de 2018-2019, c'est l'Est du Congo. C'est d'ailleurs de là, le Zaïre devenu Congo, c'est d'ailleurs de là que vient l'épidémie. Ebola est un fleuve du Congo qui a donné son nom à ce virus parce que c'est dans cette région qu'il a été découvert en 1975. Donc, évidemment, nous sommes, comme tout le monde, face à des phénomènes qui circulent à travers les frontières et qu'il faut pouvoir saisir dans cette dimension-là.
Alors, Ronnie Broman, on est évidemment en train de traiter de sujets qui sont difficiles, des épidémies, des guerres, des catastrophes naturelles. Après toutes ces années, je voulais simplement vous demander, pour terminer, si vous avez un bon souvenir à partager, un moment de bonheur de ces années à MSF.
Oh, j'en ai plusieurs, même si on évolue généralement dans un paysage de décombres et de souffrances. En effet, il y a malgré tout de bons souvenirs. D'abord un souvenir, disons, un peu, auto-centré. Auto-centré pas sur moi, sur Médecins Sans Frontières. C'est le prix Nobel en 99, le prix Nobel de la paix, qui est venu, bon, un peu tardivement. Il est venu au secours de la victoire parce que MSF avait déjà une très grande notoriété à cette époque, mais enfin tout de même, ça a été une sorte de reconnaissance qui était agréable, même si c'est une médaille en chocolat, le prix Nobel, hein, j'en fais pas des kilos, c'était tout de même sympathique de voir le monde reconnaître MSF. Et un souvenir plus constructif, plus réel, ça a été pour moi une espèce d'apothéose de l'opération. J'étais encore président de Médecins Sans Frontières à l'époque, c'était en 91, au moment de l'exode des Kurdes, quand MSF, toutes sections confondues, parce qu'on n'a pas rappelé ici que Médecins Sans Frontières est à l'origine français, mais dans son développement est devenu international, d'abord essentiellement européen. Il y a 6 sections différentes en Europe, et puis il y a d'autres bureaux. Et là, collectivement, on a mis en place la plus grande opération de secours pour les réfugiés kurdes qui ait jamais été. On a été plus efficace et plus rapide que les armées, que les gouvernements, que les Croix-Rouges. Et on a vraiment rendu un immense service à des gens qui étaient dans une détresse noire. Donc ça, c'était vraiment un très, très grand souvenir.
Merci beaucoup, Ronnie Broman. Merci mille fois d'avoir répondu à nos questions, cofondateur, merci, ancien président d'MSF, Médecins Sans Frontières. Alors je le dis à nos auditeurs, écoutez les premiers épisodes, ils sont disponibles. Première ligne, c'est une idée d'MSF pour raconter ses 50 ans d'action. On a évoqué quelques pays, le Rwanda, vous retrouverez Haïti, vous retrouverez Gaza, la Syrie, évidemment les mineurs non accompagnés chez nous aussi. C'est une production Europe 1 Studio à retrouver, à télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Merci Ronnie Broman.
Merci,
7h53,
Béliard.
Dans un tout petit instant, l'édito politique. Nicolas.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h55 sur Europe. Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Alors hier, c'est Bertrand Chameroy qui se moquait d'une soi-disant polémique selon laquelle des véganes auraient voulu interdire les biscuits en forme d'animaux que l'on peut croquer, donc on en rit encore. Mais une autre affaire, moins légère, celle-là est apparue depuis.
Et c'est naturellement sur Twitter que cette polémique s'est développée. Tout commence il y a 2 jours avec un petit message commercial anodin de l'eau d'Evian. Buvez 1 litre d'eau par jour, plutôt banal, sauf pour une poignée de musulmans qui s'offusquent immédiatement et partent en guerre contre Evian, coupable d'inciter à boire, donc à rompre le jeûne au premier jour du Ramadan.
Alors le Ramadan, pour ceux qui le respectent, impose en effet de ne manger ni boire entre le lever et le coucher du soleil.
Et que croyez-vous qu'il arriva ? Evian s'excusa pour une faute qui n'existait pas, car le message publicitaire ne disait pas « buvez aujourd'hui ». D'ailleurs, l'aurait-il fait que ça n'avait rien d'insultant ? Et on trouve des quantités de contre-exemples, de messages ou de pubs qui pourraient choquer les chrétiens ou les juifs sans que ça ne provoque le moindre remous. Ces excuses ont donc déclenché en retour un raz-de-marée de protestations sur le thème très, très houellebecquien de la soumission à l'islam, des dizaines de milliers de réactions et de controverses.
C'était si grave que ça, je veux dire, allez, j'ose, est-ce que ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau ?
Osez. C'est vrai qu'à l'origine de l'affaire, il ne doit y avoir tout au plus qu'une petite poignée de musulmans flirtant avec l'islam le plus intransigeant. Mais dès lors que leur message agressif est relayé et amplifié par les réseaux sociaux, tout change de dimension. Premier problème. Et puis il y a les excuses de l'audévian qui envoie un message de repentance. Deuxième problème. Alors bien sûr, on peut considérer que ce n'est qu'une anecdote, mais on voit bien ce qui menace derrière ce tweet banal et la tempête qui l'a déclenché. C'est l'entrée en force d'une certaine morale religieuse dans nos gestes de la vie quotidienne. C'est la génuflexion d'une marque mondiale face à la pression d'une petite minorité extrémiste. C'est une marche de plus dans la montée du communautarisme, dans l'édiction d'une police de la bien-pensance religieuse. On est tout près de ce qu'on appelle le woke, ce mouvement venu de la gauche américaine et qui voit partout l'oppression des minorités. On pense aussi à la cancel culture, ce mouvement qui veut effacer les parties de l'histoire qui ne lui conviennent pas et qui veut par exemple déboulonner des statues. Bon, avec la pression communautaire, tout ça forme un tout et l'idée qu'un message commercial anodin, vraiment anodin, hein, deviennent au gré des circonstances un enjeu de morale et de religion et qu'il provoque un recul de la liberté de pensée et d'expression, alors oui, c'est un peu plus qu'un problème de verre d'eau.
Votre édito politique tous les matins à 7h50. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Tous les matins, Nicolas Canteloup conseille l'invité de la matinale. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Mathieu Bock côté essayiste et c'est Manuel Valls qui voulait lui dire un mot.
Bonjour Monsieur Béliard. Bravo pour ce formidable duo que vous formez avec M. Bétou lorsque vous parlez d'Odévian et vous répliquez « C'est une tempête dans un verre d'eau, si j'ose, oh oui, formidable, osez. » C'est formidable. Quel beau
duo. Vous êtes jaloux.
J'aimerais ne pas oublier de saluer M. Cabrol. Écoutez, ce matin, je sais que, oui, Mme Mabrouk va recevoir M. Mathieu Bock. Côté. Il va donc, je le sais, je soupçonne, il va critiquer les indigènes de la République, il va dire du mal d'Edwy Plenel, de Rokhaya Diallo, il va, j'en suis certain, casser du sucre sur le dos de l'UNEF et de la famille d'Adama, oui, Traoré. Eh bien, ce matin, je demande solennellement, pourquoi Madame Mabrouk invite un Québécois que personne ne connaît pour dire ce que je pourrais dire moi-même, exactement de la même façon. Alors, qu'en est-il ? Elle non plus ne veut pas de moi ? Enfin, c'est quand même incroyable dans ce pays que personne ne m'aime. Alors, je lance un appel à Madame Mabrouk. Appelez-moi, allons. Moi aussi, j'adore bâcher sur Daniel Obono et Virginie Despentes. Allez, soyez sympa, Madame Mabrouk. Hein ? Je sens, je ne sais pas, mais je subodore que elles vont être très solitaires les années prochaines pour moi.
C'est signé Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h45 pour la revue de presse. Mathieu Bock côté, l'essayiste au micro de Sonia Mabrouk. Dans un quart d'heure, 7h59, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Bon alors, un retour sur cette journée très rapidement. Aujourd'hui, les gagnants, les vainqueurs, ceux qui, encore que, attention, on a tellement besoin d'eau que j'ai honte de dire qu'il est heureux qu'il fasse beau. Mais enfin, Bretagne, Loire-Atlantique, Poitou-Charentes-Vendée, il fera beau. Limousin, tout le sud-ouest et le Languedoc-Roussillon, il fera beau. Basse-Normandie, région parisienne, Bourgogne, Franche-Comté, région Rhône-Alpes, mi-figue, mi-raisin, éclaircie, 50-50, la balle au centre. Et puis sous le nord, la côte Picarde, les côtes normandes, les Ardennes, la Lorraine et l'Alsace, ce sera un temps à gibouler avec des averses et parfois même un petit peu de neige. Ce sera le cas, pas de neige, mais des averses sur la Provence, la côte d'Azur et sur les Alpes. En ce qui concerne maintenant les températures maximales, entre 10 et 16 degrés, c'est comme hier.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.